Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grande, invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Julien Clémenceau. Bonjour Julien.
Bonjour.
Julien, vous remplacez Frédéric Maury, habituellement à votre place, mais qui a été appelé à d'autres fonctions. Et nous recevons donc aujourd'hui Zineb Abad El Andalousi. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Zineb Abad El Andalousi, vous êtes de nationalité marocaine et française et vous avez fait vos études supérieures à Paris, à l'école centrale. Vous avez passé de longues années au sein de la banque Rothschild. Vous avez fini par vous occuper de développer la présence de ce prestigieux établissement en Afrique. Et aujourd'hui, vous êtes directrice générale d'un fonds d'investissement qui s'appelle Helios Partners. Vous y êtes responsable en particulier du développement des investissements de ce fonds en Afrique francophone. D'abord, deux mots sur Helios. Quel genre de fonds d'investissement est-ce ?
Tout d'abord, comme vous le disiez, deux mots sur Helios. Helios aujourd'hui est la plus grande société de capital investissement qui est exclusivement spécialisée sur l'Afrique. Notre métier et nos investissements se dirigent exclusivement sur l'Afrique. C'est un fonds d'investissement qui a été créé et qui a investi en Afrique depuis plus de 15 ans, créé par des Africains pour les Africains. Et ça, c'est extrêmement important. Pourtant, parce qu'à la base, c'est un ADN très entrepreneurial. C'est parti par deux fondateurs nigérians qui ont investi dans le business de toute première tour télécom au Nigeria, Helios Tower Nigeria, qui ont eu cette vision, cette ambition pour le continent à un moment, et qui ont créé ce business from scratch.
De rien.
De rien, absolument, de rien. Pardon pour mon franc anglais qui revient régulièrement. Donc, c'est cette vision entrepreneuriale qui a donné l'ambition et qui a créé Helios à la base. Aujourd'hui, notre ambition et notre vision, c'est de donner aux Africains le moyen de maîtriser leur propre développement.
Alors, ce sont ces deux fondateurs nigérians qui vous ont recruté ?
Absolument. J'ai rejoint une équipe de fondateurs nigérians qui souhaitent et qui ont déjà investi dans l'Afrique francophone, mais avec la mission particulière d'accélérer, continuer et développer encore plus notre présence sur l'Afrique francophone. Aujourd'hui, dans notre portefeuille, l'Afrique francophone représente à peu près 30%.
On en parlera plus longuement dans l'émission, mais je disais il y a quelques secondes que vous étiez centralienne. C'est-à-dire, vous avez fait l'école centrale à Paris, qui forme plutôt des ingénieurs. Pourtant, on vous retrouve dans la finance. De quoi l'Afrique a-t-elle le plus besoin ? D'ingénieurs qui construisent les infrastructures dont le continent a tellement besoin ou de financiers comme vous ?
Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin...
En gros, pourquoi avoir fait ce choix ?
Absolument. Ça correspond à un choix très personnel. Je suis ingénieur de formation, mais dès la fin de ma troisième année d'ingénieur, j'avais déjà beaucoup de goût pour l'économie et la finance. Et donc, j'ai choisi en troisième année de faire l'option ingénieur économiste, ce qui était très à la mode à l'époque, mais qui correspondait à une vraie vocation. Et assez vite, en sortant d'école, il était clair pour moi que ma vocation et mon souhait, c'est de se diriger vers la finance et l'économie. C'est pour ça que j'ai rejoint Rothschild en fusion acquisition il y a aujourd'hui plus de 20 ans. D'un point de vue Afrique, je pense sincèrement que l'Afrique a besoin de tous ses talents, de tous les Africains qui peuvent participer au développement d'Afrique, quelle que soit la nature de ce qu'ils peuvent contribuer. Aujourd'hui, il y a pour moi un grand paradoxe sur l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique, c'est un continent qui a beaucoup de ressources, beaucoup de richesses, et qui malheureusement a du mal à attirer encore beaucoup de capitaux, contrairement à ce qu'on voit en Europe.
Alors vous nous expliquerez au cours de cette émission ce que sont les activités de ce fonds Helios Partners Investment au sein duquel vous travaillez. Nous parlerons de l'économie de cette Afrique que vous connaissez bien et nous terminerons par quelques questions concernant la situation économique et financière internationale. Une première question de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Après avoir été banquière d'affaires, vous êtes aujourd'hui patronne de fonds d'investissement. Pour l'opinion publique qui ne connaît pas ou mal votre métier, ça consiste davantage à enrichir des actionnaires qu'à contribuer au développement du continent. Qu'est-ce que vous apportez à l'économie africaine ?
Alors, sur cette question, effectivement, le métier de fonds d'investissement n'est pas forcément très connu. Et c'est pour ça que je tiens à justement bien expliquer ce que je fais dans la vie de tous les jours. Après avoir été banquière d'affaires, mon premier emploi consistait à conseiller des sociétés dans le cadre de cessions ou d'acquisitions ou de levées de financement. Mais ma mission s'arrêtait une fois que la transaction était conclue. Et donc j'ai émis le souhait, et c'est pour ça que j'ai rejoint Helios, de pouvoir accompagner les sociétés plus sur le long terme. Et donc de voir comment une société vit après la transaction. Et je pense qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement en Afrique ont la lourde tâche, si vous voulez, de contribuer au développement économique de l'Afrique. Mais surtout, il n'y a pas que le financement est certes important, mais surtout de contribuer à la création de valeur et d'accompagner les sociétés dans la vie de tous les jours pour en faire des sociétés encore plus prospères que ce qui...
Donc vous les aidez à parfaire leur stratégie et à améliorer leur process.
Absolument. La création de valeur passe par un certain nombre d'outils, si je peux le dire ainsi. C'est améliorer la stratégie, améliorer les process, que ce soit sur des process financiers ou des process opérationnels, contribuer à la bonne gouvernance, échanger avec eux les best practices qu'on voit ailleurs, si je peux dire, c'est les meilleures pratiques qu'on voit ailleurs sur d'autres sociétés, et mettre à disposition des entrepreneurs et des entreprises locales africaines une expertise internationale.
Alors, vous avez employé l'expression tout à l'heure de capital investissement. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Capital investissement, c'est un terme un peu compliqué pour désigner quelque chose de très simple. Notre objectif en tant que capital investisseur, c'est de d'abord sélectionner, analyser un certain nombre de sociétés qui ont un fort potentiel de développement, dans laquelle on investit aujourd'hui, qu'on accompagne dans la durée pour créer de la valeur, se développer encore plus vite qu'une société que la société pourrait faire individuellement, avec l'objectif et à terme de sortir. Parce que nous, c'est l'argent qu'on contribue et l'argent qu'on investit appartient à des investisseurs qui nous l'ont mis à disposition pour faire fructifier, accompagner
les sociétés. Donnez-nous un exemple.
Un exemple, je peux vous donner un exemple de ce qu'on a fait au Kenya. On a investi dans Equity Bank, qui était une banque kenyane uniquement, il y a quelques années. On l'a accompagné pendant 8 ans. Quand on a investi dans cette banque kenyane, la part de marché locale de cette banque était de 7%.
Vous avez investi combien ?
On a investi à peu près 50 millions de dollars. On est sortis, on les a accompagnés pendant 8 ans. Ça veut dire qu'on les a accompagnés de manière opérationnelle, de manière stratégique. On les a aidés à prendre le tournant du digital à un moment où c'était important. Aujourd'hui, Equity Bank of Kenya est cité régulièrement parmi les 10 banques les plus rentables dans le monde. Ça, pour moi, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire et de ce qu'on souhaite faire. C'est faire émerger des entreprises qui deviennent demain des champions panafricains et qui contribuent au rayonnement de l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'on les a accompagnés. Au moment où on a investi, c'était 7% de part de marché. Au moment où on est sorti, la banque kenyane avait 50% de part de marché. Et non seulement la part de marché a beaucoup augmenté, mais on a participé au développement géographique de la banque. Elle était essentiellement et uniquement sur le Kenya. Quand on est sorti, la banque, on l'avait développée sur 7 autres pays africains. Donc, elle est devenue un champion régional.
Donc, vous avez mis 50 millions de dollars au pot. Vous en avez récupéré combien, 8 ans après ?
Je n'ai pas les chiffres exacts, mais l'idée, c'est que si on a mis de l'argent pour le faire fructifier, c'est que la banque, après nos investissements, valait beaucoup plus.
Mais votre mise a été multipliée par combien ? L'objectif, c'est de multiplier par 2, 3, 4, 5 ?
Je n'ai pas le chiffre exact, objectivement, mais ce qui est important pour moi, avant tout, c'est que si le chiffre a été multiplié par un facteur X, c'est que la banque et les co-actionnaires et le tissu local en a bénéficié à travers la création d'emplois, à travers le développement d'un certain nombre d'activités que la banque n'aurait pas pu développer seule et à travers le développement sur la région.
Donc, est-ce qu'investir en Afrique est aussi rentable qu'investir dans d'autres zones du monde pour les investisseurs qui mettent de l'argent dans les fonds comme le vôtre ?
Je pense que l'Afrique a ses complexités. C'est-à-dire qu'il y a un environnement qu'il faut essayer de comprendre, un environnement local. Et ça, on ne maîtrise pas le sujet africain quand on n'est pas africain. Aujourd'hui, moi, je suis née et j'ai grandi au Maroc, comme vous le savez. J'ai fait une grande partie de mes études au Maroc avant de rejoindre l'école centrale à Paris. Mais mes collègues ont exactement la même double culture que moi, le même ADN que moi. Ils sont nés au Nigeria, ils sont nés au Kenya, ils sont nés au Sénégal. Et c'est donc aujourd'hui cette double culture de gens qui sont nés et grandis quelque part, qui ont une vraie compréhension de l'environnement local, mais qui ont évolué aussi dans un environnement international qu'on souhaite apporter à nos investisseurs.
Est-ce que vous pourriez être plus précise, peut-être plus concrète, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui différencie les choix d'Elios des choix que pourrait faire un fonds américain, un fonds européen ?
Alors, il y a beaucoup de choses on a beaucoup de spécificités. La première spécificité, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est un fonds exclusivement africain, qui investit exclusivement sur l'Afrique, contrairement à d'autres fonds qui ont une politique d'investissement mondiale, si je peux le dire ainsi. Nous, notre ADN, c'est d'investir uniquement en Afrique. Donc, c'est notre business de tous les jours. Deuxièmement, il y a cet ADN entrepreneurial que je vous disais en introduction. Les fondateurs du fonds ont une vraie vision entrepreneuriale. Et souvent, beaucoup de business aujourd'hui en Afrique n'existent pas, alors qu'ils devraient exister. Et donc, on a cette capacité...
Mais ça veut dire quoi ? Une vision entrepreneuriale ?
C'est-à-dire qu'on peut créer des business, ouais, de rien. En Afrique, si on voit l'opportunité et qu'il y a un besoin, on peut créer un business pour combler ce besoin et répondre à un besoin qui nous semble essentiel.
C'est-à-dire que vous ne vous revendiquez pas comme de purs financiers ?
Absolument pas, absolument pas. Je pense que le capital investissement en Afrique est différent de ce qu'on peut voir par ailleurs dans le monde, parce que aujourd'hui, souvent, beaucoup de business n'existent pas. Donc, on peut investir dans des business pour créer des business ou même des startups. Ça, c'est très fort et c'est un ADN caractéristique de Elios. Beaucoup de fonds ne peuvent pas le faire. On est l'un des rares fonds qui peut le faire. Et deuxièmement, notre histoire en Afrique, c'est une histoire de croissance. On ne peut pas, contrairement à ce qu'on voit dans le monde, leverager, mettre beaucoup de financement, beaucoup de dettes, de levier sur des entreprises africaines. Et donc la création de valeur, elle passe pas par le financier, mais elle passe par l'opérationnel, par contribuer à améliorer le process, par regarder la stratégie, améliorer les choix stratégiques et créer de la valeur opérationnelle. Ce n'est pas une création de valeur financière, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres...
Mais d'où vient l'argent que vous investissez ?
Aujourd'hui, l'argent qu'on investit, c'est de l'argent qui nous a été mis à disposition par des grands investisseurs qui souhaitent justement investir uniquement sur l'Afrique. Nous sommes backés par les plus grandes institutions.
Nous sommes soutenus
par les plus grandes institutions internationales et par des bailleurs de fonds internationaux qui aujourd'hui souhaitent avoir une exposition uniquement à l'Afrique. Et donc ils nous confient une certaine somme d'argent qu'on investit sur ce continent. Pour vous donner un exemple, dans nos investisseurs, nous comptons tous les grands investisseurs, pension funds, etc., fonds de pension 1, et notamment on compte aussi des organisations gouvernementales comme un certain nombre de...
Est-ce que vous avez, parmi vos bailleurs de fonds, des investisseurs ou des entrepreneurs africains qui, à titre privé, mettent de l'argent pour le développement des entreprises en Afrique, qu'elles soient africaines ou internationales ?
Aujourd'hui, malheureusement, non.
C'est quand même paradoxal.
Le sujet qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le fonds Elios gère à peu près 3 milliards de dollars sur l'Afrique. C'est un énorme ticket. Le dernier fonds qu'on est en train de déployer, il fait 1 milliard 100 de dollars. Et donc...
C'est beaucoup ?
C'est beaucoup et peu à la fois pour l'Afrique, parce que je pense que la demande en termes de capitaux et le besoin en termes de capitaux pour l'Afrique est énorme aujourd'hui. Mais c'est beaucoup, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos bailleurs de fonds, quand ils mettent des tickets, c'est des tickets assez conséquents. Et donc, à ce stade, malheureusement, on n'a pas d'investisseurs africains.
Est-ce que vous les approchez ? Est-ce que vous les sensibilisez ? Est-ce que vous sentez que les choses peuvent changer ou vont changer ?
On l'espère, aujourd'hui, que les choses peuvent changer. Mais ça veut dire qu'il faut déjà avoir franchi une étape et avoir créé des richesses, effectivement, localement, qui peuvent donner à ces entrepreneurs le moyen aussi d'investir des gros tickets. Et peut-être, pourquoi pas, penser à un fonds dédié à si j'ose dire, aux Africains, dédié aux investisseurs institutionnels africains.
Vous y pensez à la création de ce fonds ?
Ça fait partie des choses qu'on discute.
Est-ce que vous comptez, dans votre travail, il y a de courtiser, de démarcher les Oppenheimer, les Dangote, pourquoi pas Ramaphosa, les milliardaires africains ?
Je suis pas habilité à commenter sur qui on démarche. Et d'ailleurs, on démarche pas. C'est souvent des gens qui nous ont accompagnés dans l'aventure Elios, Tower Nedjar, des Tours Télécom en premier, qui continuent à nous accompagner aujourd'hui. Donc, on démarche pas le fond. La manière dont ça fonctionne, c'est que ces investisseurs qui ont connu l'ADN du fonds et la création du fonds ont continué à nous accompagner sur Helios 1 et sur le fonds 1, sur le fonds 2 et sur le fonds 3. Donc c'est pas vraiment une démarche. C'est plutôt des gens qui nous connaissent et qui nous font confiance et qui continuent à nous confier leurs capitaux pour les investir.
Donc vous avez pas de mal à lever de l'argent. Il n'y a pas de difficulté.
Non, il n'y a pas de difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie exposition et les gens, enfin, dans leur cadre d'allocation d'actifs, ils ont le souhait de allouer une partie de leurs investissements sur l'Afrique. Maintenant,
est-ce que vous avez la sensation que par rapport à l'époque où vous étiez encore à la Banque Rothschild et aujourd'hui où vous êtes à la tête de ce fonds, il y a une mutation dans le regard que les milieux financiers portent sur le continent africain, en tout cas dans les capitaux investisseurs, dans les capitaux risqueurs?
Je pense que les choses bougent dans la bonne direction. En effet, moi, je me souviens quand j'étais à la banque d'affaires déjà, et que j'étais en charge de l'Afrique, très souvent, j'étais dans une démarche de convaincre les investisseurs à investir en Afrique. C'est-à-dire que quand on allait, ce qu'on appelait de manière assez commune, aller faire une présentation à un investisseur sur une cible ou une société, je passais plus de temps à convaincre l'investisseur sur le bienfait d'investir en Afrique que sur le business que j'étais censé venu lui présenter. Donc ça, c'était un peu dommage. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie conscience que l'Afrique est un terrain d'opportunité, mais il y a un vrai sujet et question d'appréhension du risque politique, du risque opérationnel. Il y a beaucoup d'amalgames et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une vision très fine de ce qui se passe sur ce continent, mais qui se disent il y a de vraies opportunités, il faudrait qu'on s'y intéresse.
Alors vous dites que les choses vont dans le bon sens, on voit aussi qu'il y a des fonds, et je pense à l'américain KKR, qui font machine arrière. Est-ce qu'eux, ils ont vu l'Afrique trop belle, plus belle qu'elle n'est? Est-ce qu'ils n'ont pas pris en considération les difficultés qu'il pouvait y avoir, les spécificités? Comment vous interprétez leur décision et la décision d'autres fonds qui, des fois, vont de l'avant et ensuite font machine arrière?
Je ne connais pas la stratégie des fonds concurrents, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des opportunités qui existent sur le terrain. Et encore une fois, il faut avoir une très, très fine compréhension des tissus locaux. Et ça, c'est quelque part... C'est important pour pouvoir trouver et investir dans les bonnes opportunités. Si aujourd'hui, je pense que nous, notre force en tant qu'Helios, c'est d'être tous des gens comme moi qui ont la double culture, si je peux dire, d'être nés quelque part et de comprendre comment ça se passe dans ces pays-là. Quand je pense à mes collègues nigérians, le Nigeria est un pays qui est difficile à comprendre. Et quand vous n'êtes pas né et grandi là-bas, vous n'avez pas souvent cette finesse de compréhension des enjeux locaux et de l'environnement local qui est critique dans ce type d'investissement.
On parlait des fondateurs tout à l'heure du Helios. Votre fonds est installé à Londres, c'est là qu'est le siège. La Grande-Bretagne est engagée dans un processus extrêmement difficile de sortie de l'Union européenne, ce qu'on appelle couramment le Brexit. Est-ce que vous regardez, vous collectivement, chez Helios, ça de près? Est-ce que ça pourrait remettre en cause votre localisation à Londres? Est-ce que ça rend les choses plus difficiles si la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne?
Absolument pas pour nous, parce qu'aujourd'hui, pour nous, nos investissements, ils sont en Afrique. Nos investissements continueront à être en Afrique et ça ne changera rien dans notre dispositif demain. Nous avons également, comme je vous le citais tout à l'heure, deux bureaux, un à Nairobi et un à Lagos. Ces bureaux-là, c'est des bureaux où nous avons des équipes qu'on appelle portfolio manager, des équipes qui gèrent les boîtes en portefeuille, qui ont une expérience très stratégique. Et quand je parlais tout à l'heure de la création de valeur qui est importante pour nous, c'est des gens qui sont basés localement, qui ont un ADN très très opérationnel et qui contribuent à la création de valeur tous les jours aux côtés de ces sociétés en portefeuille. Non, ça ne change rien à notre dispositif. Notre business est africain et continuera à être africain demain.
Eh bien, c'est la fin de la première partie de cette Écho d'ici, Écho d'ailleurs, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous vous retrouvons, Zibed Abad Alain Dalloussi, dans quelques minutes, après un flash d'actualité.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Éco d'ici Éco d'ailleurs, l'émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique, nous recevons une grande invitée de l'économie, en la personne de Zineb Abad Al-Andalousi, directrice générale du fonds d'investissement Helios Partners. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons commencé à faire connaissance avec vous, madame, votre parcours de financière de haut vol, depuis votre entrée au sein de la banque Rothschild, jusqu'à l'entreprise que vous représentez aujourd'hui à ce micro. Et nous avons vu que l'Afrique était devenue votre terrain de chasse exclusif, si tant est que je puisse employer l'expression terrain de chasse. Pour entamer cette deuxième partie, je voudrais que vous nous racontiez de manière un peu concrète, prosaïque, le processus que vous suivez pour décider d'un investissement dans une entreprise africaine. Comment ça se passe ?
De manière très basique, notre objectif, c'est aujourd'hui d'investir dans des sociétés sur une vision long terme avec un vrai potentiel de croissance. Notre objectif à terme, c'est de construire les champions panafricains de demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les priorités du fonds, c'est d'investir dans des sociétés bien établies, qui ont un fort potentiel de croissance, que nous pouvons faire croître rapidement sur d'autres pays, mais surtout aussi d'investir sur des sociétés qui sont capables d'être demain, d'avoir le rayonnement de celle de Equity Bank, par exemple, que je citais tout à l'heure. Le processus de décision, donc ça veut dire investir déjà, notre stratégie, c'est d'investir dans des secteurs clés de l'économie africaine, donc tout ce qui est besoin et social pour les pays africains.
C'est-à-dire lesquels ? L'électricité, les infrastructures,
ça peut être l'énergie, ça peut être les services financiers, ça peut être l'infrastructure, ça peut être l'agribusiness. Assez récemment, on a fait l'acquisition, pour vous donner un exemple, de tout le réseau de Louis Dreyfus de distribution de fertilisants et d'engrais sur l'Afrique.
Bon, ça, c'est Louis Dreyfus étant l'un des géants du négoce mondial,
absolument,
des grains en particulier, absolument, des céréales.
Absolument.
Pour ne citer que ce produit-là.
Absolument. Et donc pour nous, si vous voulez, comment on est venu à cette réflexion-là, c'est qu'on considère que l'agriculture en Afrique est un sujet important. Et la distribution et mettre à disposition du fermier le bon engrais pour l'aider dans son développement et l'aider à maîtriser ses récoltes, c'est un enjeu majeur pour nous. D'où la raison de cet investissement.
Là, apparemment, c'est une autre stratégie que vous employez parce que vous rachetez une entreprise.
Oui.
Ça n'est pas seulement un investissement dans une entreprise. Vous n'apportez pas un capital supplémentaire.
Absolument. Si, on a apporté un capital supplémentaire.
Oui, vous apportez un capital, mais vous êtes là, c'est une filiale en quelque sorte de Helios.
C'est une filiale pour nous qui a beaucoup de potentiel de développement et qui, pour nous, est un actif important sur lequel on va focaliser et développer. Et on a une vraie stratégie de développement. On a racheté ces sociétés parce qu'on considère qu'on peut l'aider à créer de la valeur et se développer encore plus vite qu'elle n'a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cet enjeu-là. Il y a aussi l'enjeu de maîtriser, comme je vous disais, les récoltes. Et il y a un enjeu sociétal derrière qui est l'autosuffisance alimentaire, sans laquelle aucun développement africain n'est possible. Donc aujourd'hui, il y a la vision. Quel est le potentiel de croissance de la société ? Qu'est-ce qu'on peut nous lui apporter et comment on peut l'accompagner pour en faire un champion panafricain de demain ? Mais aussi l'enjeu sociétal de quoi a besoin l'Afrique pour se développer ?
Alors, répondez à la question que je vous posais, à la demande de description. Par exemple, pour acheter cette société, comment ça s'est passé ? Comment est venue l'idée ? Combien de réunions ?
L'idée est venue de simple constat qu'aujourd'hui, en Afrique, l'utilisation des engrais est 10 fois moins importante que dans le reste du monde. Alors que l'Afrique, paradoxalement, concentre plus de 60% des terres arables qui ne sont pas exploitées. C'est le premier constat. Deuxième constat, la population africaine est en train de croître rapidement. Il va falloir la nourrir. Et ça, c'est un besoin essentiel de la population africaine. Donc il y a forcément, quelque part, nourrir cette population en optimisant les rendements, en mettant les engrais à disposition des fermiers, en les conseillant sur le type d'engrais à utiliser, en leur donnant les moyens aujourd'hui d'améliorer leur culture et d'améliorer les rendements. Donc, pour nous, c'est venu de ce processus-là. Une fois qu'on a identifié le besoin, si je peux le dire ainsi, après, on peut faire un screening de toutes les sociétés qui sont dans le secteur.
On va
passer en revue toutes les sociétés cibles qui peuvent avoir du sens et qui sont suffisamment établies, qui ont un socle suffisamment mature pour pouvoir développer et construire un champion panafricain.
Donc là, dans ce cas précis, c'est vous qui démarchez Dreyfus ou Dreyfus est vendeur, tout le monde le sait et le dossier circule.
Ça peut être les deux cas. Il y a des démarches spontanées qu'on initie de notre côté parce qu'on a identifié ce type de besoin et ce type de secteur et ce type de société. Mais il y a aussi, comme vous le savez, le travail des banquiers d'affaires, c'est aussi de conseiller les vendeurs. Il y a peut-être des processus qui ont été initiés en amont par des banques d'affaires qui contactent effectivement toute la cible des acheteurs potentiels. Mais là-dessus, ça peut être les deux schémas de pensée. Hein.
Et alors, vous disiez que le fonds est consacré exclusivement à l'Afrique. Est-ce que vous allez investir à l'avenir en priorité dans les entreprises africaines ou là, reprendre des entreprises internationales? Quelle est la politique d'Elios?
La politique d'Elios, c'est indifféremment accompagner les entreprises africaines, les entrepreneurs africains, les talents africains, mais également d'identifier des sociétés peut-être existantes, qui sont peut-être des filiales de grands groupes, hein, qui sont aujourd'hui à une taille sous critique et qui ont besoin de se développer et que nous, on peut aider à se développer encore plus vite que quand elles étaient au giron d'un grand groupe.
D'accord. On parlait justement des entreprises africaines. Quelle évaluation faites-vous aujourd'hui des questions de gouvernance au sein des entreprises africaines, du respect des règles d'éthique? Est-ce qu'il y a encore un frein à l'investissement? Est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits? Comment vous voyez les choses?
Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de chemin qui a été accompli sur ces sujets d'éthique, sur ces sujets de gouvernance. Mais il y a encore du chemin à faire, hein, même si on en a fait un bout. Je pense que les sujets d'éthique sont extrêmement importants pour nous, autant que Elios. C'est des sujets fondamentaux, ça fait partie de notre ADN et on ne pourra pas y déroger. Les sujets gouvernance, ça fait partie des choses sur lesquelles on accompagne les sociétés pour échanger avec elles sur des pratiques qui ont été vues dans d'autres sociétés et leur faire prendre conscience que la bonne gouvernance est un facteur de croissance et de création de valeur. Donc ça fait des choses sur lesquelles on accompagne dans la durée les sociétés. Je pense qu'il y a encore, comme je le disais, du chemin à faire, mais d'un point de vue, nous, Elios, autant que fond, l'éthique et la déontologie que nous représentons est fondamentale pour nous. Notre réputation est fondamentale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est soutenu par toutes les grandes institutions financières. On n'a pas le choix que d'être dans un mode déontologique, éthique. Et je pense sincèrement, à titre personnel, en tant qu'Africaine, que c'est bien pour l'Afrique. C'est bien pour l'Afrique, alors, c'est bien pour notre continent de continuer dans ce chemin-là.
Vous insistez donc sur la responsabilité sociale de vos investissements. Si on prend l'exemple environnemental, est-ce que vous allez plutôt privilégier les énergies renouvelables ou bien est-ce que vous soutenez le développement de compagnies pétrolières, de compagnies qui distribuent des produits pétroliers? Quelle va être la réflexion autour de ça?
Je pense aujourd'hui que l'Afrique, pour délivrer la croissance qu'elle peut avoir et pour optimiser ses ressources, a besoin de toutes les sources d'énergie. Il n'y a pas de développement en Afrique s'il n'y a pas autosuffisance énergétique. Aujourd'hui, on est confronté à des industriels et des opérateurs qui sont locaux, qui sont confrontés régulièrement à des coupures d'électricité. Comment pouvez-vous travailler, créer de la valeur, investir dans l'industrie si vous n'avez pas de l'énergie? Ça n'existe pas. Et donc nos investissements en tant que Elios sont fondamentaux pour donner aux Africains le moyen de se développer, et ça passe aussi par leur fournir l'énergie électricité. À ce sujet-là, par exemple, on a investi récemment, en 2016, on a investi dans une société qui s'appelle Off-Grid Electric, ce qui veut dire hors réseau. Off-Grid Electric, c'était une start-up, ça c'est un bon exemple de business qu'on a démarré.
Mais juste pour revenir en arrière, c'est donc le pétrole fait partie des sources d'énergie importantes pour donner l'électricité, permettre à l'industrie de se développer, etc. Donc vous ne bannissez pas, par exemple, comme pourraient le faire d'autres, les investissements dans ce champ-là?
On ne bannit aucun investissement. Notre principe, c'est que l'investissement qu'on doit faire doit bénéficier aux Africains, doit avoir un impact sur l'économie locale, doit créer un tissu de productif local. Ça, c'est important pour nous. C'est ça qui est fondamental. Aujourd'hui, il y a des besoins énormes, comme je vous disais, en énergie. Évidemment, si on peut privilégier de l'énergie verte, on va vers ce champ-là. Et c'est ce que je vous disais, on a investi dans Off-Grid Electric, qui est une start-up qui nous est venue de San Francisco, qui fait des panneaux solaires qui permettent d'alimenter toute la maison en électricité. On a trouvé que ce concept et ce produit étaient complètement adaptés à l'Afrique, dans des endroits reculés où on ne peut pas transmettre et transporter l'électricité. Aujourd'hui, ce concept-là est en train d'exploser complètement.
Ce sont des panneaux qui sont fabriqués où ? En Chine ?
Non, ce sont des panneaux qui sont fabriqués pour l'instant localement. On est en train de démarrer la fabrication localement.
Et
qui sont très, très connus. Dans les pays où on a un partenariat déjà avec EDF aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on vient d'étendre et d'injecter 55 millions de dollars dans ces sociétés aux côtés de GE. Pour étendre le partenariat vers le Ghana, parce qu'il y a un besoin énorme pour ces populations. Mais quand vous dites énergie, électricité, ça veut dire que vous permettez à des gens qui sont dans des endroits reculés d'avoir de l'électricité, ça veut dire l'accès à l'éducation, ça veut dire l'accès à la sécurité, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses localement. Donc,
Alors, Madame Andalousie, au mois de janvier dernier, le Libéria a investi son nouveau président, George Weah. À l'occasion de la cérémonie d'investiture, le nouveau chef de l'État a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption, donc c'est un thème auquel vous êtes sensible, et de l'ouverture au secteur privé, autre thème auquel vous êtes sensible. Il a profité de son discours d'investiture, George Weah, pour tendre la main aux investisseurs. On l'écoute.
Nous voulons qu'on parle de nous comme d'un gouvernement favorable au secteur privé. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un environnement favorable aux investisseurs transparents et de bonne foi. Nous allons nous débarrasser de réglementations administratives superflues qui tendent à freiner la création d'entreprises rentables. Alors que nous ouvrons nos portes à l'investissement direct étranger, nous gardons à l'esprit l'importance d'empêcher la marginalisation des entreprises libériennes. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être les spectateurs de notre propre économie.
Ce sont des propos recueillis sur place par Michel Arsenault de RFI. Est-ce que le Libéria fait partie des pays que vous regardez chez Elios dans lesquels il y aurait des opportunités d'investissement ?
On regarde tous les pays africains, comme je vous le disais. Notre terrain de chasse, c'est l'Afrique de manière globale. On exclut d'investir dans aucun pays, typiquement. Et je pense que ce type d'initiative est salutaire, parce que je pense fondamentalement...
Vous parlez du discours du président
Weah. Oui, absolument. Je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge de ressources naturelles, minières, démographiques, etc. Et que les capitaux qu'elle attire aujourd'hui sont sous-dimensionnés par rapport à ses besoins de croissance. Et donc, pour moi, le rôle des capitaux privés est fondamental.
Parce que vous le soulignez vous-même tout à l'heure, 3 milliards de dollars, c'est les capitaux dont vous disposez, qui sont investis. C'est peu de choses au regard des besoins. Combien faudrait-il pour votre fonds pour répondre aux besoins que vous estimez devoir être satisfait en Afrique ?
Je pense que les besoins en Afrique aujourd'hui sont énormes. À la fois, quel que soit le type de capitaux, privé, public, que ce soit de la dette ou de l'equity, les besoins sont énormes. Je pense que plus il y a d'acteurs aujourd'hui comme nous ou comme d'investisseurs internationaux qui sont capables de drainer de l'investissement et des capitaux, mieux c'est pour l'Afrique. Mais attention, moi je fais une vraie différence. Je pense que pour nous, en tant qu'Africains, il est important que ce soit une croissance inclusive. Ça veut dire que ce soit des investissements qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi et qui créent un tissu productif local. Vendre des ressources minières directement aux investisseurs internationaux, c'est pas ça l'avenir de l'Afrique. Je pense que l'Afrique gagnerait plus à créer de l'industrie locale, à transformer localement, plutôt que de vendre nos richesses. Non, richesse à des investisseurs qui, de toute façon, une fois qu'ils ont la matière première, ne créent pas d'emplois, n'investissent pas sur le pays.
Alors, Zineb Abad El Andalousi, vous êtes la grande invitée de l'économie et RFI Jeune Afrique. Vous êtes la directrice générale d'Elios Partner Investments, une maison de capital investissement qui fonctionne uniquement à destination des marchés africains. Et je passe la parole à Julien Clémenceau de Jeune Afrique pour une question.
Le fonds la société d'investissement a été créée par des Nigérians. Elle a beaucoup investi au Nigeria, en Afrique anglophone. Et vous êtes chargé du développement maintenant en Afrique francophone. Il y a un souhait de rééquilibrer les fonds investis et les sociétés soutenues pour qu'il y ait plus de sociétés en Afrique francophone.
Alors, absolument. Le fonds a été créé par des Nigérians a traditionnellement investi en Afrique anglophone, mais aujourd'hui déjà, à travers nos investissements qui sont des plateformes et des champions panafricains, on est déjà présent dans un certain nombre de pays francophones.
Est-ce que vous pourriez donner des exemples de sociétés dont vous détenez une part et qui sont présentes?
Absolument. La société qu'on vient de racheter, le carve-out qu'on vient de faire, le rachat de la filiale de Louis Dreyfus qui distribue les engrais et fertilisants en Afrique, est présente dans 8 pays africains francophones. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina, le Mali. Et donc, ça, c'est exclusivement un réseau francophone. Un autre exemple que je peux vous donner, on a fait un partenariat avec la famille AgroLimen, qui est investisseur en Afrique depuis une trentaine d'années, présent sur une trentaine de pays.
Quelle famille ?
Famille AgroLimen, c'est une famille espagnole qui détient des marques très connues à l'international, mais plus aux États-Unis, de tout ce qui est sauce tomate, condiments. C'est un grand groupe de condiments qui détient des marques localement et qui détient aussi des marques localement très présentes en Afrique. Et donc, on a fait un partenariat avec eux pour construire une des plus grosses plateformes agroalimentaires aujourd'hui en Afrique, à la fois sur l'Afrique francophone et anglophone.
Donc, eux, et c'est quoi cette plateforme ?
C'est une plateforme de distribution, de production et de distribution de sauce tomate, comme des marques qui sont connues en Afrique, de Gino, Bama, de cube bouillon, de mayonnaise. Et l'idée, c'est justement d'étendre ça sur d'autres produits.
Créateur de valeur, mais aussi d'emploi.
C'est créateur de valeur et aussi d'emploi, parce que
combien d'emplois ?
J'ai pas les chiffres en tête, mais l'idée, c'est que cette société aujourd'hui, qui est telle qu'elle est, on l'a déployée au Nigeria, au Ghana. Elle était uniquement sur l'Afrique francophone. Donc, l'idée, c'est de déployer au Nigeria, au Ghana. Qui dit déployer du Nigeria au Ghana, c'est aussi créer une intégration en amont de la production et du sourcing de la tomate, parce que la sauce tomate est un des produits phares qu'on a, localement.
Donc, c'est pour une production locale, oui. C'est pas de la distribution.
Non. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas complètement, mais l'idée, c'est d'aller vers l'aval et de produire localement ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, l'Afrique francophone représente dans notre portefeuille à peu près 30%. Et on a vraiment l'ambition de développer ça, et c'est ma mission, entre guillemets, pour avoir rejoint Helios, d'aller jusqu'à 40% à horizon 5 ans, pour que nos investissements, nos sociétés en portefeuille représentent à peu près 40% de la totalité de nos investissements en Afrique.
On dit beaucoup que les Français sont très en retard, qu'ils ont perdu beaucoup de terrain en Afrique. C'est quelque chose que vous constatez, ils tentent un retour en force. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, que vous vivez ?
Malheureusement, je pense que c'est quelque chose que je vois, et en tant que Française, je suis triste de faire ce constat, parce qu'aujourd'hui, la France avait une longueur d'avance sur l'Afrique. On a des liens historiques, on a une proximité culturelle sur laquelle les Français auraient pu capitaliser il y a quelques années pour prendre le virage africain, si je peux le dire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous avez vu, le président Macron déploie beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Je pense qu'on a un peu perdu de terrain, mais je pense que à partir du moment où on revient en force et qu'on comprend que l'Afrique n'est plus un marché d'export, l'Afrique n'est plus uniquement un marché où on peut écouler ses marchandises, et qu'on investit dans une logique de colocalisation, si je peux le dire ainsi, tout est ouvert. Il n'y a pas de dogme du côté africain. Moi, je vois les entrepreneurs africains, ils sont très pragmatiques. Il n'y a pas de dogme. À partir du moment où il y a des opportunités, à partir du moment où on les aide à se développer, à créer des emplois, à faire de la croissance, tout est ouvert. Aujourd'hui, je trouve que la façon dont historiquement la France a réagi vis-à-vis de l'Afrique a créé un peu de friction, malheureusement.
Mmh. Julien Clemenceau ?
Est-ce que vous avez l'impression que du côté des entrepreneurs français, le message est passé, ils ont bien compris cette nouvelle dimension, pouvait prendre l'Afrique pour eux, un marché avec un fort potentiel, mais un marché où on vient localiser des unités de production et plus uniquement distribuer ses produits.
Ah ouais, il y a un certain nombre de grands groupes qui ont compris ce message-là et qui travaillent dans cette direction. Maintenant, les choses prennent un peu de temps à se mettre en place, mais je pense que le message est bien passé, ou en tout cas, les grands groupes qui ont une stratégie africaine aujourd'hui, moi j'entends dans la vie de tous les jours, pour discuter avec quelques grands groupes, que l'Afrique est stratégique pour eux, mais que souvent, malheureusement, sur la partie anglophone, ils ne savent pas y aller, ils ne sont pas à l'aise. Donc nous, on peut être une partie de la solution au problème, de les accompagner sur ce type de territoire. Donc,
Tout à l'heure, vous parliez des questions minières. Vous nous disiez que l'Afrique ne devait pas être seulement un gisement minier ou pétrolier, je pense, pour des puissances extérieures. Il y a quelques jours, c'est terminé à Johannesburg, en Afrique du Sud, le Mining Indaba, une grande réunion minière internationale. Et à cette occasion, le président de la GKMIN, la société minière publique de RDC, Albert Yuma Mulimbi, s'est exprimé. Il s'en est assez violemment pris aux investisseurs qui exploitent le sous-sol africain, font fructifier leurs cours de bourse sans se préoccuper du sort de l'Afrique. On écoute Albert Yuma Mulimbi dans des propos recueillis à Johannesburg par notre correspondante Lisa Fabian.
Nous ne pouvons plus nous permettre d'alimenter l'industrie mondiale avec nos minerais pour un résultat aussi minime que celui que nous constatons aujourd'hui. Que nous restera-t-il demain pour assurer notre développement quand notre sous-sol aura été vidé de sa substance? Que nous restera-t-il? Rien. C'est pourquoi dès à présent, nous souhaitons prendre les mesures nécessaires pour garantir que nous profiterons réellement des fruits de notre sous-sol. Et j'entends déjà les réactions des investisseurs du secteur sur le caractère irréaliste de ces propositions. Je ne les cautionne pas, tant elles sont outrancières. Qu'on se le dise clairement, les gémissements plaintifs de nos partenaires qui craignent de déplaire à leur board d'actionnaires ne nous concernent pas, ne nous concernent plus. Il est question ici du développement d'un pays, pas de la rente actionnariale de tel ou tel investisseur ou fonds de pension. La République démocratique du Congo n'est pas un produit financier. Je dirais même plus, l'Afrique tout entière ne devrait plus être un produit financier. Les risques dont il parle sont largement et volontairement surestimés. Quand on analyse les performances boursières de nos amis, dont certains ont vu leur cours de bourse croître de 1200% en une année. Expliquez-moi ça.
Albert Yuma Mulimbi, le président de la GKMIN à Johannesburg, au Mining Indaba, je vous voyais opiner du chef. Vous signez dès demain ce qu'il vient de dire ?
Je suis totalement en ligne avec ce qui vient d'être dit.
Mais vous ne vous sentez pas visé parce qu'il dénonce les investisseurs dont le cours de bourse flambe alors que ces pays-là...
Alors, il faut dire aussi, par rapport à l'intervention de M. Yuma, qu'il est aux affaires depuis longtemps, donc il ne découvre pas les stratégies des sociétés minières internationales. Il a participé à façonner la politique minière de la RDC.
Absolument. Moi, ça ne me gêne pas que les sociétés, que leur cours de bourse, quelque part, se portent bien. Ce qui me gêne plus, c'est quand je vois quel est le retour sur investissement pour les Africains. Et dans les cas présents, ce qu'il disait assez justement, il n'y en a pas. C'est un peu exploiter une rente qu'on a et qui est finie et qui, quelque part, demain, va disparaître. Je pense que créer de la valeur localement, créer un tissu productif local, ça, c'est des sujets sur lesquels les Africains devraient être intransigeants, si je peux le dire ainsi.
On va parler du Maroc maintenant, votre pays de naissance, Julien.
Oui, vous êtes né au Maroc, vous y avez fait une partie de vos études, vous y avez travaillé. Pendant la crise d'Al-Hoceima, durant laquelle les habitants du Rif ont dénoncé leurs conditions de vie, le roi a remis en question, de manière un petit peu surprenante pour les observateurs, le modèle de développement du Maroc. Comment vous interprétez cet aveu? On voit que là, il y a aussi une nouvelle crise des revendications qui naissent à Gerada, dans la région de l'Oriental.
Je crois fondamentalement que le Maroc a fait beaucoup de progrès en termes d'investissement sur l'Afrique et en termes de rayonnement de l'économie sur l'Afrique. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Maroc est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Notre seule ressource naturelle, et on n'a pas de pétrole. Hein.
C'est peut-être une chance.
C'est peut-être une chance, c'est la madée, comme on dit. Et donc, tout ce qui a été développé du Maroc aujourd'hui a été développé sur la base d'une économie. Et je pense que le Maroc a été visionnaire dans le sens où aujourd'hui, tous les grands talents à l'international ont été rapatriés au Maroc et c'est ça qui a créé une économie
locale. Mais le roi, là, pose la question de la direction prise. Est-ce qu'on a pris la bonne direction? Est-ce qu'on a suffisamment apporté à nos populations? On a vu qu'il y a eu tout un tas de gens qui ont été remerciés, de remaniements, et le roi lui-même a dit, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur ce que nous devons faire maintenant pour les populations de ces régions qui sont peut-être moins favorisées?
Je pense que quand vous avez ce genre d'événement, c'est juste tout à fait normal et de pouvoir se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Maroc, mais je pense que malheureusement, on part de loin et donc il y a encore un bon bout de chemin à accompagner. Et je pense que c'est assez légitime de dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer la situation de certaines personnes. C'est tout à fait légitime. Ça ne veut pas dire que le boulot n'a pas été fait. Ça veut dire qu'on doit aller encore plus vite et plus loin sur ce qu'on doit faire.
7 ans après la Révolution, les Tunisiens aussi, en début d'année, ont fait part de leur désenchantement par rapport aux objectifs qui s'étaient tous collectivement fixés. Qu'est-ce que doivent faire les pays du Maghreb pour répondre aux aspirations de leur population? On voit que ça grince au Maroc, c'est la même chose en Tunisie. En Algérie aussi, il y a des revendications sociales importantes.
Je pense que l'intégration, j'appelle de tous mes voeux l'intégration au niveau du Maghreb. Je pense que c'est créateur de valeur pour tout le monde. Et si aujourd'hui on regarde le bien-être des populations au
Maghreb, c'est pas le chemin qu'on a pris.
Malheureusement, peut-être pas, mais je pense que c'est le meilleur chemin à prendre. Je continue à le penser et j'espère qu'un jour on avancera dans cette direction.
Eh bien, c'est sur ce vœu que se termine cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, Zineb Abad El Andalousi. Vous pouvez retrouver les passages les plus significatifs de cet entretien à la fois en texte et en vidéo sur les sites internet de nos deux médias, Jeune Afrique et RFI. Et puis pour nous podcaster, pour retrouver cette émission radio, rendez-vous sur l'application de RFI Pure Radio. Et je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouvelles aventures économiques. Au revoir.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.